Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Au début des années 2000, la mondialisation était à la mode. Certains nous la présentaient comme étant heureuse. En tout cas, elle était le signe, le symbole de promesses, d'une amélioration des conditions de vie, d'un monde plus petit, plus étroit peut-être aussi. On parlait de village global. C'était en tout cas les idées, les thèmes qui étaient présents dans les médias, dans les journaux, dans ces années 2000-2010. Et puis, on voit bien, après les attentats du 11 septembre 2001, après d'autres événements, que si le transport maritime a très fortement augmenté, que si les temps de communication se sont accrus aussi et toujours au cours des 20 dernières années, nous sommes entrés dans une autre phase qui est peut-être d'ailleurs la phase de la démondialisation. Nous allons essayer d'étudier ce concept de démondialisation, d'étudier cette notion avec mon invité Guillaume Vulmet. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes professeur de finance à HEC Paris. Vous travaillez sur l'histoire économique et vous avez publié plusieurs ouvrages, mais un récemment, il y a quelques semaines, qui s'intitule justement « Le temps de la démondialisation ». Sous-titré « Protéger les biens communs contre le libre-échange » qui est paru au Seuil dans la collection « La République des idées ». Alors comme chaque semaine, les références des ouvrages de nos invités sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Mais interrogeons-nous sur ce terme de démondialisation. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quelle définition on peut donner de cette démondialisation?
Alors, peut-être qu'avant de définir la démondialisation, il faut déjà savoir ce qu'est la mondialisation. Et je crois que c'est évidemment tout l'enjeu du débat et aussi du livre, finalement. Bien souvent, comme vous le rappeliez, il y a encore quelques années, on voyait la mondialisation comme quelque chose, finalement, d'unanimement heureux, qui nous avait, pour faire simple, apporté de plus en plus de biens de consommation à des prix de plus en plus bas. Et donc, c'était finalement quelque chose, en tout cas d'un point de vue économique, tout à fait désirable. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, toute démondialisation serait forcément un retour à des temps où nous devrions payer plus cher pour absolument tout. Et donc, ce serait quelque chose de dramatique. Bon. Ce que je dis, ou ce que j'essaie de dire, c'est que cette vision de la mondialisation qu'on a eue, elle n'est pas complètement fausse, mais elle est incomplète. Et c'est effectivement vrai qu'on a eu de plus en plus de biens de consommation à disposition, que beaucoup de biens ont coûté de moins en moins cher parce qu'on a pu diviser le travail et la production à l'échelle du monde. Mais cette abondance de biens privés, elle a eu un coût caché, quoi. Souvent on n'a pas vu ou pas vu complètement, qui est l'abandon ou la perte de certains biens communs. Et je peux en citer trois essentiellement. D'abord, tout ce qui touche à l'environnement, ça a eu probablement pour conséquence certains coûts environnementaux, probablement certains coûts sociaux, perte de sentiment d'appartenance, perte, développement des inégalités, et puis ça a aussi eu des coûts géopolitiques ou stratégiques, où on a finalement dans beaucoup de cas privilégié ou jugé de certaines politiques uniquement en se demandant si elles étaient bonnes ou mauvaises pour le consommateur, et pas tellement pour les États, pour les peuples et pour les communautés.
Alors justement, comme c'est important de bien définir les concepts, on va y aller étape par étape. La notion de bien commun, là aussi, elle peut être ambivalente. Il peut y avoir différentes définitions, même on peut l'entendre de différentes manières. Quelle définition vous en donnez? Qu'est-ce qui est un bien commun? Et quel serait l'antonyme d'un bien commun? Est-ce que c'est un bien privé? Est-ce que c'est un bien particulier?
Alors, il y a évidemment beaucoup de définitions et c'est un terme très polysémique. J'aime bien parler de bien commun au pluriel et je crois que dans le livre, je ne l'emploie quasiment qu'au pluriel parce que je crois que ce qu'on appelle les biens communs, c'est avant tout les biens propres de communautés particulières, de peuples particuliers, de nations particulières, de civilisations éventuellement particulières, mais qui a pas finalement de biens communs dans l'abstrait, mais que c'est vraiment toujours des biens que des peuples, des communautés peuvent être extrêmement locales ou extrêmement vastes, pourquoi pas, ont en commun. Et donc ça peut être évidemment des choses dont la valeur ne se réduit pas à la valorisation individuelle et subjective. Ça peut être évidemment des biens communs environnementaux qui sont presque la condition même d'existence de peuple ou de civilisation. Ça peut être évidemment des intérêts politiques ou géopolitiques que des peuples ont en commun. Et je crois que le propre du politique, c'est précisément de définir ces biens communs. Je ne peux pas vous dire les biens communs, c'est A, B, C, D, E, puisque c'est précisément chaque peuple aura des choses qui valorisera en propre, des traditions, des savoir-faire, des intérêts géopolitiques propres à son existence, qui définissent son identité et qui précisément, il aura intérêt à défendre contre une forme d'indifférenciation planétaire.
Donc on pourrait dire qu'il y a des biens communs matériels, des biens communs immatériels aussi.
Tout à fait.
L'UNESCO, par exemple, il y a une liste du patrimoine de l'UNESCO avec des biens matériels, Notre-Dame de Paris, et puis des biens immatériels comme par exemple le repas gastronomique français. On est un peu dans cette idée-là.
Alors tout à fait. Je crois qu'il y a évidemment un peu le problème de l'UNESCO finalement, c'est de rendre ça abstrait au niveau mondial ou objectif au niveau mondial. Moi, je pense toujours le bien commun avant tout du point de vue d'un peuple, c'est de se dire que finalement que tel savoir-faire disparaisse dans telle région à l'échelle du monde, ça peut paraître insignifiant, mais à l'échelle de cette région, c'est extrêmement important que telle tradition culinaire de savoir-faire artisanal, etc., se perpétue et ça contribue un peu à l'identité de la région également.
Ça veut dire qu'il faut réfléchir à différentes échelles et qu'effectivement, l'art de la dentelle, par exemple, dans la région de Bruges, évidemment, ne sera pas forcément compris ailleurs dans le monde, mais il y a cette pluralité d'échelles de réflexion.
Ah, je pense réellement à effectivement une pluralité d'échelons, depuis le très local jusque probablement à l'échelle des continents, des civilisations. Je crois qu'il y a vraiment un continuum et que également quand on parlera peut-être de protectionnisme, si je pense qu'il y a un protectionnisme qui doit parfois être justifié, c'est pas forcément uniquement comme on le voit souvent au niveau national, mais ça peut être réellement protéger également un savoir-faire à un niveau très local, ce que font par exemple des appellations d'origine contrôlée pour des vignobles par exemple.
Oui, c'est ça, les AOC, les AOP, enfin,
exactement.
La France d'ailleurs a été assez novatrice, puisque les AOC c'est des années 1920, ça fait bientôt un siècle que ça existe. Vous évoquez le concept de protectionnisme, alors là aussi c'est un concept qu'il faut étudier parce que c'est pareil, c'est un mot un peu fourre-tout. Quand on pense à protectionnisme, on pense souvent à protection douanière, par exemple, donc augmenter ou baisser d'ailleurs certaines taxes. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de protectionnisme, notamment sur les éléments immatériels ? Est-ce qu'il peut y avoir une manière de protéger des éléments intellectuels, une protection d'auteur, par exemple, une protection d'art, enfin, comment là aussi vous entendez cette notion de protectionnisme ?
Alors je crois qu'il y a deux contresens très, très fréquents sur le concept de protectionnisme, et le premier et le plus important à mes yeux étant le suivant. Bien souvent, beaucoup d'auteurs vous disent, il faut du en tout cas ceux qui le défendent vous disent, il faut du protectionnisme parce qu'on sera plus riche avec du protectionnisme, ça créera plus d'emplois, ça créera plus d'entreprises en France, etc. Je crois que c'est pas un bon argument. Je crois précisément que quand on dit cela, on reste finalement dans un prisme purement économique, sans voir que précisément les bonnes justifications fondamentales du protectionnisme sont extra-économiques. Ce que je disais, dire finalement, en tant que consommateur, si nous n'étions que des consommateurs privés, le libre-échange absolu serait ce qu'il y a de mieux. Mais précisément, nous ne sommes pas que des consommateurs privés, nous le sommes aussi évidemment, mais nous ne sommes pas que cela. Et tant que nous sommes, par exemple, partie prenante à des peuples, à des communautés, à des pays, à des nations, à des civilisations, bien nous avons autre chose en commun à protéger. Et le protectionnisme a précisément pour but de protéger ces dimensions extra-économiques de la vie et de dire bien, il y a des éléments de notre environnement naturel, de notre vie sociale, des intérêts politiques ou géopolitiques qui méritent d'être protégés. Même si c'est pas rentable, même si c'est pas une bonne affaire, même si les coûts sont plus élevés, parce que ça contribue d'une manière différente à notre vie commune. Et donc je crois qu'il faut justement arrêter de défendre le protectionnisme uniquement d'un point de vue en raison d'arguments économiques. Il y a peut-être des bons arguments économiques pour le protectionnisme, mais en fait assez peu. et les bons arguments sont extra-économiques, ils sont politiques ou culturels ou autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a énormément de formes de mesures, de décisions qui peuvent être considérées comme ayant une dimension politique. Protectionniste, ça peut être évidemment des droits de douane, mais ça peut être aussi des réglementations, des interdictions de certains produits, des labels comme les AOC ou les AOP sont protectionnistes en un sens, puisque eh bien, dans chaque négociation commerciale, certains veulent les supprimer pour faire du champagne aux États-Unis ou je ne sais où.
Alors, vous êtes professeur de finance, mais on voit que dans votre ouvrage, Le temps de la démondialisation, vous avez une réflexion territoriale. Alors, je cite les titres de vos chapitres, il y en a un qui s'intitule la déterritorialisation des échanges. Ça, c'est effectivement le phénomène de la mondialisation. Et puis, vous terminez votre conclusion par la reterritorialisation du monde. Donc, on voit une approche qui est territorial et on va dire même géographique. C'est effectivement un phénomène des 20 dernières années, c'est ce qu'on appelle en géographie la littoralisation, donc le fait que les populations habitent de plus en plus sur les littoraux. On voit l'importance prise par les ports aussi, et puis des régions qui se sont constituées, si je prends le cas du textile en Chine, en Éthiopie, au Maroc. En fait, on a une territorialisation du monde qui a pris une autre dimension, ou des territoires qui étaient éloignés, qui sont devenus très proches par ces échanges. Qu'est-ce que la démondialisation pourrait apporter dans ces transformations territoriales ? Quel chamboulement on pourrait avoir, d'après vous, dans les conséquences pour ces pays-là aussi, de cette démondialisation ?
Alors, effectivement, un des axes fondamentaux du livre, c'est effectivement une dialectique entre ce que j'appelle le monde de la terre et le monde de la mer, où je montre historiquement, pour faire simple, avant les grandes découvertes, mais en pratique beaucoup plus tardivement, l'essentiel des échanges gardait des liens très forts avec la Terre, et donc voyager sur des longues distances pour un bien, c'était toujours traverser une série d'ordres politiques territorialisés, et qui donc chacun imposait leur loi, leur réglementation, etc. Et un exemple de tout ça, c'est qu'évidemment, au Moyen-Âge, par exemple, les grandes foires de champagne, ne sont pas dans les ports, mais sont en Champagne, donc sont précisément au cœur de l'Europe continentale terrestre. Et la grande nouveauté de la mondialisation telle que je la décris, c'est qu'elle s'est développée avant tout sur les mers. Le droit commercial qui a accompagné l'essor de la mondialisation s'est développé sur les mers, précisément parce que les mers, et notamment la haute mer, donc à partir des grandes découvertes et par la suite, permet de contourner les terres, les États, qui seraient défavorables au commerce, et donc met en concurrence finalement un peu tous les États, en favorisant donc évidemment les régions les plus littorales du monde, et les États dont l'esprit est maritime. Il y a par exemple le grand livre de Schmitt, Terre et Mer, qui est vraiment dans cet esprit-là. Et effectivement, le monde de la victoire de la mondialisation, c'est la victoire du monde de la mer sur le monde de la Terre. Bon. Alors, on peut penser qu'effectivement, la démondialisation, bien comprise, serait un renversement de bascule davantage vers le monde terrestre, prendre davantage en compte les intérêts de territoires ou de terres ou de pays qui ont pu être moins gagnants de la mondialisation parce qu'ils ont été plus territoriaux ou moins, avec moins d'accès à la mer ou moins favorables aux intérêts marchands en concurrence mondiale dans ce monde ouvert et sans frontières.
Alors vous évoquez la mer, il y a le cas de Grotius, effectivement, puis ce droit maritime, cette question d'ailleurs de savoir si on a une mer ouverte ou une mer fermée, puis à qui appartient la mer. Or, il y a une partie de la mer qui n'appartient à personne. Est-ce que ça, ce ne serait pas l'archétype même du bien commun ?
Alors, c'est très intéressant, c'est un très vaste sujet. Donc, au début du XVIIe siècle, Grotius publie son livre très célèbre, son Mare Liberum, donc pour plaider en faveur de la liberté des mers, donc que les mers n'appartiennent à personne, qui est un principe qui a été réaffirmé à maintes reprises en droit international. À l'époque, il y avait évidemment les opposants à Grotius sur la mer fermée. Et à l'époque, la manière dont on pensait la mer était de dire c'est une res nullius, donc une chose de personne. Et au fur et à mesure, le droit a un peu évolué et aujourd'hui on le pense non plus tellement comme une res nullius, donc la personne, mais ce qu'on dit en droit comme res communis, donc comme une chose commune qui n'est pas appropriable, non pas parce qu'elle n'est à personne, mais parce qu'elle est à tout le monde finalement. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement ? Peut-être pas grand-chose. Mais conceptuellement, c'est déjà important. Après, est-ce qu'on peut parler de bien commun à l'échelle mondiale, c'est presque une question philosophique un peu compliquée, parce que j'ai tendance à penser que qui dit bien commun dit communauté, et penser des biens communs dans l'abstrait de l'humanité, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y a en tout cas cette tension qui existait dès le XVIIe siècle, continue en partie à exister aujourd'hui via ce changement de dialectique de res nullius vers res communis.
Cette notion de démondialisation, on peut dire que c'est peut-être une notion européenne ou occidentale. Est-ce qu'on sait si elle est appréciée ou si elle est pensée dans des aires culturelles autres que nous? Je pense en Asie, par exemple. La Chine a quand même été, je ne sais pas si on peut dire que c'est un des grands gagnants, en tout cas, ça a été un des grands acteurs des 20 dernières années, un des grands acteurs de la mondialisation. Est-ce que, côté chinois, on pense aussi ce concept de démondialisation?
Alors, je pense qu'on le pense assez différemment, pour une raison assez simple, qui est, en gros, ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été des puissances qui ont une pensée assez universaliste, ont été, pour faire simple, l'Europe et les États-Unis. Avec toujours cette idée sous-jacente qu'il y avait un modèle issu de l'histoire qui était meilleur que les autres et qui, à terme, devrait s'appliquer de manière à peu près identique partout dans le monde. Bon. Donc le modèle voilà, des échanges mondialisés, peut-être régulés un peu par l'OMC, par le FMI, par des grandes institutions mondiales, etc. Bon. Et qu'en gros, il y avait un modèle et que ce modèle finirait au final par s'imposer un peu partout dans le monde. Bon. Je pense que les Chinois n'ont jamais pensé comme ça, par exemple. Les Chinois reconnaissent fondamentalement la diversité des peuples et des États et des visions du monde. Et donc, s'ils pensent leur action à l'échelle mondiale, ça n'a rien à voir avec une mondialisation au sens où je ne pense pas que les Chinois se rêvent en gendarmes du monde de la même manière que les Américains ont pu le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des ambitions géopolitiques, ils en ont évidemment, mais d'une nature complètement différente, ce qui, je pense, reconnaît bien davantage l'idée qu'il y a une diversité des communautés politiques, des peuples, des continents, etc. Et donc, la démondialisation dans ce sens-là, dans le sens où j'en parle, est finalement effectivement un point de vue assez européen ou occidental, dans le sens où il s'agit finalement de prendre acte que le monde n'est plus ce monde plat, comme il a pu être décrit par le passé, mais qu'il y a des lignes de fracture qui réapparaissent ou qui avaient été masquées et qui restaient sous-jacentes, et qu'il faut pour chaque État, notamment les États européens, eh bien, réaffirmer des biens communs propres, réaffirmer des intérêts géopolitiques propres. Mais je pense que des pays comme la Chine n'ont jamais oublié, n'ont jamais été dominés complètement par cette idée que le but ultime pour la Chine était de faire bien dans la mondialisation et que ce serait le seul objectif.
Alors, un des symboles peut-être archétypal de la mondialisation, c'est le dollar, ouais. Le dieu dollar quasiment. Or, vous aviez il y a quelques années étudié un ouvrage de Frédéric Chaillet qui traitait de la concurrence des monnaies. Et d'ailleurs, on a fait à conflit, je rends ça pour nos auditeurs, un dossier récemment sur cette guerre des monnaies. On voit là aussi que c'est un phénomène assez récent, mais qui est en expansion, où le dollar est concurrencé notamment par le renminbi, la monnaie chinoise, mais pas que. Est-ce que cette guerre des monnaies, est-ce que cette concurrence des monnaies, ça pourrait participer à cette démondialisation?
Alors, je crois oui. De la manière suivante. Alors, c'est évidemment une question complexe, mais derrière l'idée de mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à récemment, il y a évidemment un élément fondamental qui est souvent resté un peu masqué, qui est qu'eh bien, pour échanger de manière fluide à l'échelle du monde, eh bien, il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures de paiement, il faut des infrastructures juridiques, il faut des infrastructures technologiques, etc. etc. Bon. Et jusqu'à assez récemment, ces infrastructures passaient pour relativement neutres. Si on pense à la question monétaire, un système comme SWIFT avait été créé précisément en Belgique, c'est basé en Belgique, parce que la Belgique, bon, n'est pas un État qui a des ambitions géopolitiques démesurées, et donc, ça permet une forme de neutralité, et même SWIFT avait été structuré pour être une sorte de coopérative où tous les membres, toutes les banques participantes ont des droits de vote, et donc éviter précisément les pressions géopolitiques sur SWIFT. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et SWIFT a été d'abord espionné par les États-Unis, puis il y a eu des accords pour partager les données depuis les années 2010 avec les États-Unis, et donc aujourd'hui, SWIFT, dans une grande part du monde, est vue que, non plus comme une infrastructure neutre qui permettrait des échanges de manière neutre, mais comme une infrastructure américaine. Et on sait ou on suppute que si on échange sur Swift, eh bien potentiellement la transaction peut être transmise aux autorités américaines, etc.
Bon. Et d'ailleurs, une des sanctions économiques imposées à la Russie, c'était de les exclure de Swift.
Évidemment. Donc c'est évidemment un exemple typique. Il y avait déjà eu des cas de menaces précédentes, notamment bah, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, etc. sur Swift. Et là, c'était effectivement très très visible sur, dans le cas de la Russie. Et donc beaucoup de pays dans le monde se disent, eh bien cette idée que les infrastructures sont neutres n'est plus du tout vraie. Et il faut donc développer des infrastructures alternatives aux infrastructures américaines, que ce soit évidemment des systèmes de paiement. La Chine développe le sien, qui est évidemment beaucoup moins gros que Swift, mais qui est en pleine croissance. Que ce soit des câbles sous-marins, qui encore aujourd'hui sont majoritairement américains, mais d'autres pays, notamment la Chine, les développent. Que ce soit des infrastructures de satellites, des serveurs Internet, etc.
Et sur cette question de la concurrence des monnaies, il y a aussi, alors là c'est un sujet aussi dont on parle, c'est la question de la monnaie numérique. Alors on voit Facebook qui va avoir sa monnaie, on a les Amazon Coins, les Chinois aussi. Qu'est-ce que cette monnaie numérique pourrait changer ou qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de différent?
Alors je crois que le grand changement est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'il y a Swift qui est extrême, aujourd'hui tous les paiements qu'on fait, ou quasiment tous les paiements qu'on fait, passe par des banques. Bon, si je vous fais un virement, c'est un virement de mon compte en banque vers votre compte en banque. Donc fondamentalement, c'est un paiement entre deux banques. Et pour communiquer entre elles, les banques vont utiliser le système Swift, qui est en fait un système de messagerie plus que de paiement entre banques. Bon. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour quiconque, y compris la Chine ou la Russie, d'imposer un système alternatif à Swift, parce qu'il y a des effets de réseau qui font que bah, si tout le monde est sur Swift et que je suis le premier à ne plus y être, eh bien en fait, j'ai personne avec qui échanger ou avec qui parler. Donc en fait, il y a un avantage aujourd'hui très fort à Swift, donc à l'infrastructure entre guillemets américaine. Bon. Ce qu'apportent les monnaies numériques de banque centrale, eh bien c'est un système de paiement qui ne passerait plus par les banques et donc qui ne passerait plus par Swift. Et dans l'hypothèse, évidemment aujourd'hui on ne peut pas le dire, où ça devienne une technologie dominante, eh bien on peut imaginer qu'une part très importante des paiements passerait non plus par des banques commerciales, mais uniquement par les bilans de banques centrales comme la Banque de Chine, la Banque Populaire de Chine. Et bien, il n'y a plus besoin. Swift peut être intégralement contourné. Et donc, la puissance américaine, par exemple en termes d'imposition de sanctions ou de menaces d'exclusion de Swift, ne serait plus du tout opérante.
Oui, donc effectivement, les États-Unis perdraient leur levier d'action. Ça veut dire aussi pour les particuliers, je suis payé, mettons, par un Chinois via sa banque centrale, comment je fais pour recevoir l'argent? Est-ce que je peux recevoir sur mon compte bancaire ou est-ce qu'il faut que j'ai un compte dans la banque centrale chinoise?
Alors, ça dépend. Il y a dans les débats sur les monnaies numériques de banque centrale, il y a les deux types de propositions. Soit des banques centrales qui pourraient offrir directement des comptes aux particuliers, et donc vous auriez un compte directement auprès de la banque centrale. Aujourd'hui, les seuls qui ont des comptes auprès de la banque centrale sont les banques commerciales, mais on pourrait imaginer que vous et moi ayons un compte à la banque centrale. Bon, ça pourrait être le cas. Plus réalistiquement, il y aurait beaucoup de cas où, en fait, il y aurait quand même encore des banques commerciales qui seraient comme intermédiaires entre nous et la banque centrale. Et donc, on détiendrait de la monnaie de banque centrale, mais via l'intermédiaire d'un compte dans notre banque commerciale. Mais ça passerait à nouveau plus par Swift. Tous les paiements seraient quand même via la banque centrale.
Et les crypto-monnaies type Bitcoin, comment elles se positionnent, quelle est leur place dans ce système-là?
Moi, j'ai toujours été un petit peu critique, dans le sens où je pense qu'elles jouent un rôle indéniable, qui bien souvent n'est pas un rôle, ou très marginalement un rôle monétaire, puisque finalement, il y a très peu de paiements qui se font en Bitcoin. Il y a pas grand monde qui reçoit son salaire en Bitcoin ou qui d'ailleurs voudrait recevoir son salaire en Bitcoin. Mais par contre, ça joue un rôle d'actif où effectivement, pour diversifier des portefeuilles, pour investir. Donc je pense que ça va continuer à exister à l'avenir, davantage comme actif assez risqué qui offre une diversification par rapport à d'autres actifs, mais avec un rôle monétaire très limité, sauf l'exception de pays qui peuvent connaître de l'hyperinflation. On a vu que certains pays africains, par exemple le Zimbabwe, qui ont eu de l'hyperinflation, eh bien, quand votre monnaie perd plusieurs dizaines de pourcents de valeur tous les jours, eh bien, le Bitcoin est beaucoup plus sûr que cette monnaie. Et donc là, c'est intéressant comme monnaie. Mais autrement, l'intérêt purement monétaire est un peu plus limité.
Le Venezuela aussi, évidemment.
Évidemment.
Ça rentre ouais. un peu dans ce cadre-là aussi. On voit bien, effectivement, que la question monétaire, ce n'est pas uniquement les paiements, même si les paiements, c'est essentiel, parce que derrière, il y a à la fois des questions juridiques et des questions d'échange. Or, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie. Donc, effectivement, la monnaie a une dimension financière, mais aussi philosophique et politique très forte.
Bah, c'est une vraie infrastructure qui est un soubassement presque nécessaire de l'échange. Enfin, c'est les premières pages des livres d'économie, souvent un peu simplistes, où on passe du troc à la monnaie, même si bon, le troc a peut-être jamais vraiment existé comme tel, mais peu importe. Au moins philosophiquement, si on ne pouvait échanger que par le troc, eh bien, on ne pourrait échanger qu'avec quelques dizaines de personnes que l'on connaît, et il y aurait des micro-sociétés et rien de plus. Et donc, dès qu'on veut échanger des échelles plus grandes, il faut la monnaie. Et la monnaie, effectivement, n'est pas neutre. C'est aussi, effectivement, tout un soubassement presque infrastructurel de l'échange et avec des éléments juridiques, avec une vision du monde. Et d'autant plus aujourd'hui, effectivement, quand on sait que les États-Unis, par exemple, revendiquent que toute transaction en dollars dans le monde est soumise au droit américain, même si elle prend place, évidemment, entre acteurs non américains hors du sol américain. Et donc, le soubassement juridique est évident.
Oui, ce qu'on appelle l'extraterritorialité, ça, c'est la guerre du droit dont des entreprises françaises, d'ailleurs, ont fait les frais. D'ailleurs, beaucoup plus d'entreprises européennes que d'entreprises américaines.
Tout à fait. Oui, les chiffres sont assez frappants. Il y a beaucoup plus d'entreprises européennes qu'américaines.
Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est la question du politique ou de la politique. Souvent, on oppose un petit peu l'économie et la politique. Sur cette question de démondialisation, où vous situez le pouvoir politique ? Est-ce qu'il a une prise sur cette démondialisation ? Est-ce qu'il en est un acteur ? Est-ce qu'il l'a subi ? Est-ce qu'il peut y contribuer à cette démondialisation ?
Je crois que si on replace dans une séquence historique, le monde d'avant la mondialisation, d'avant cet essor du commerce, du grand commerce maritime, était un monde fondamentalement politique, territorialisé, et qu'effectivement, ce qu'a fait la mondialisation très largement, c'est de se développer hors du politique, dans la haute mer, par les échanges mondiaux, et donc de mettre en concurrence finalement tous les États, et donc finalement de réduire le politique à quelque chose qui était davantage subordonné à l'économique, ou en tout cas qui était beaucoup moins prédominant sur l'économique. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir reterritorialisation ou démondialisation, c'est forcément un certain retour du politique, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il s'agit d'intervenir et de réguler absolument tout dans l'économie, déjà probablement beaucoup trop par certains aspects, mais de dire politiquement ce qui relève du bien commun et donc doit être protégé par-delà des purs intérêts économiques et ce qui n'en relève pas. Et je crois qu'une politique d'affirmation de priorité proprement politique serait vraiment le cœur de la démondialisation.
Et alors justement, si on reste dans l'orbite politique, puisqu'on évoque les biens communs, est-ce que ces biens communs ne devraient pas être gérés par une instance supranationale, voire par un gouvernement mondial qui aurait justement une vision générale sur les choses et donc qui serait même peut-être mieux à même de régler les problèmes de biens communs au cas par cas dans les différents pays.
Alors c'est évidemment ce que proposent beaucoup de personnes. Moi je suis très sceptique vis-à-vis de ça pour différentes raisons. D'abord des raisons presque philosophiques, puisque les biens communs sont, on l'a dit, des biens de communautés particulières et donc ne peuvent être appréciés à leur juste mesure l'importance de tels savoir-faire, de telles traditions, de telles coutumes, de tels intérêts géopolitiques ne peut être apprécié que par les peuples en question et est beaucoup plus difficilement appréciable de manière abstraite par un gouvernement mondial. Et puis il y a aussi évidemment des questions de faisabilité pratique. Je crois que malheureusement, derrière l'utopie d'un gouvernement consensuel mondial, il y a bien souvent des intérêts géopolitiques de puissance dominante qui se cache, ça c'est un premier point. Il y a évidemment la question très compliquée de dire, eh bien s'il y a un gouvernement mondial unique, il y aura une hiérarchie de valeurs uniques qui va s'imposer à l'échelle du monde. Or, eh bien, moi je crois profondément à ce qu'on peut appeler le polythéisme des valeurs ou la pluralité des valeurs. Il y a des, des peuples différents, qui ont des valeurs différentes, des attachements différents à certaines valeurs, et donc un gouvernement mondial finalement risquerait d'être beaucoup plus une forme d'impérialisme d'un certain ensemble de valeurs au détriment de beaucoup d'autres.
Effectivement, une sorte d'impérialisme mondial, d'ailleurs on l'a vu avec l'ONU, qui a été rendu inefficace et puis très souvent tenu par les États-Unis, on a eu l'exemple en 2003 d'ailleurs lors de l'invasion de l'Irak. Il y a un autre acteur aussi de la mondialisation et encore aujourd'hui, c'est la question des ONG ou des associations, on va dire, supranationales qui ont une prétention d'intervention mondiale. On voit d'ailleurs souvent que ces ONG sont rarement non gouvernementales parce qu'elles sont financées par des gouvernements de manière directe ou indirecte, ou qu'elles sont protégées par le droit d'un gouvernement, ou alors qu'elles vont enquêter sur des entreprises ou des pays qui sont opposés au gouvernement qui les soutient. Quelle place vous donnez à ces ONG, à ces associations dans cette démondialisation ?
Alors, c'est pas un sujet que j'aborde réellement. Je crois qu'effectivement, il y a vraiment deux choses à distinguer. Il y a probablement certaines associations qui font des choses absolument remarquables et qui ont un rôle à jouer pour pas mal de choses. Il y a aussi effectivement des associations, des ONG, qui sont en fait le bras un peu invisible de certains gouvernements pour faire de l'ingérence dans des pays étrangers. Et ces formes d'ingérence, personnellement, je les trouve tout à fait condamnables. J'ai vraiment une vision du monde comme étant finalement une mosaïque de peuples, d'états, de civilisations ayant chacune des biens communs propres à faire prévaloir, une vision du monde propre à faire prévaloir sur leur terre et dans ce cadre-là, des formes d'ingérence masquées n'ont guère plus lieu d'être que des formes d'ingérence explicites.
Merci beaucoup Guillaume Julmet d'être venu à notre micro nous présenter ce temps de la démondialisation. C'est le titre de votre ouvrage paru au Seuil dans la collection La République des idées. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions, pour votre fidélité également à Conflit. Et je vous rappelle que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'abonner vos proches ou de faire abonner vos proches aussi en format papier ou en format numérique en vous rendant sur la boutique de Conflit, revueconflit.com. Vous pouvez retrouver toutes les offres d'abonnement. Vous pouvez également retrouver les anciens numéros, le numéro actuel également que vous pouvez commander et vous le faire livrer chez vous. En vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer puisque nous vivons que grâce à nos lecteurs et qu'avec l'argent de nos lecteurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.